Alors Bernard Fournier, on constatera d'ailleurs que dans cette période qui nous intéresse dans ce livre, 1870 à l'entre-deux-guerres, plusieurs quatuors, enfin de nombreux chefs-d'œuvre, se terminent de cette façon dépressive. On a le sentiment que désormais le quatuor à cordes n'est plus, effectivement, raconte tellement et tellement proche de la vie, de la biographie, du sentiment. Enfin, tout à l'heure, on parlera du dernier quatuor de Bartok, on pourrait parler de la suite lyrique de Berg et de beaucoup d'autres quatuors à cordes, qui, au lieu de terminer un peu triomphalement ou classiquement, se terminent comme ça sur une espèce de descente aux enfers ou d'effondrement.
Absolument, mais au XIXe siècle, c'est le seul cas. Et c'est véritablement au XXe siècle, ce sera relativement fréquent effectivement, à partir du deuxième quatuor de Bartok, l'opus 17, et puis ensuite la suite lyrique, le quatuor de, et puis beaucoup d'autres quatuors, le quatuor de Martinou, beaucoup de quatuors au XXe siècle vont, parce que finalement, c'est le sujet blessé, c'est le sujet brisé, c'est l'angoisse existentielle. Donc c'est effectivement une autre vision du monde que, si vous voulez, dans la période précédente et au XIXe siècle, hormis Smetana, on vit encore un peu sur cette lancée. On est dans la perspective optimiste des Lumières et c'est évident, par exemple, que Beethoven, dans aucun de ses quatuors, Beethoven ne termine de cette manière-là, parce qu'il y a toujours quels que soient les drames et même l'opus 95 dont on parlait tout à l'heure, il y a toujours un sursaut et une volonté d'affirmation de la volonté, de la joie ou de la victoire. Tandis que véritablement, maintenant, philosophiquement, c'est aussi comme ça, le sujet n'est plus maître chez lui et donc il est en proie à une angoisse nouvelle que le quatuor traduit particulièrement bien. Alors je voudrais juste dire que on a écouté le premier quatuor de Smetana, c'est un des grands chefs-d'œuvre du 19e siècle post-beethovenien, mais il a écrit un deuxième quatuor quelques années après, alors qu'il était au bord de la folie, et ce quatuor est plus ingrat, mais peut-être encore plus beau et plus remarquable et extrêmement innovant, avec une écriture très éclatée, une approche formelle très originale aussi, avec une esthétique du fragment, avec énormément de ruptures. D'ailleurs, ce quatuor est assez proche par certains aspects de ces dialectiques de Bloch, des derniers quatuors de Beethoven. Et donc, c'est une œuvre absolument magnifique, brève, concentrée, qu'il faut absolument découvrir.
Alors je vois que Luc-Marie Aguera, Miguel de Silva, vous écoute avec intérêt. Je suis sûr que quand vous aurez lu le livre, vous allez ajouter à votre répertoire au moins une dizaine de quatuors à cordes
plus que ça, j'espère, plus que
indispensables.
ça.
Plus, enfin,
j'ai déjà une petite liste pour eux.
Merci.
Faut bien commencer par 10. Alors, le deuxième que vous avez choisi, et voilà, c'est un peu une surprise après le Smetana, mais il est vrai que quand même, c'est un choc. Il est vrai qu'on traversait après tout l'Atlantique. Dvorak, justement, l'avait bien fait. Avec un mouvement du deuxième quatuor de Charles Ives. Alors, nous sommes donc aux États-Unis. Nous sommes quand même assez tôt dans le siècle, 1907, il commence ce quatuor. Et avec Ives, évidemment, on peut s'attendre à tout, parce que lorsqu'on écoute la musique de Ives, c'était un tel imaginatif, un tel précurseur. Il y avait une telle liberté dans son inspiration que on peut pas dire que c'est une musique sans époque, mais enfin, elle présage tellement des tas de choses qui vont se passer au XXe siècle. Alors, voilà Ives qui écrit un quatuor à cordes, un premier dont vous parlez d'une façon comme ça, en pensant qu'il n'est pas trop génial, et un deuxième qui est complètement extraordinaire et qui possède une structure dont vous allez nous parler maintenant et qui est quand même, enfin, allez-y,
Oui,
allez-y, je vous laisse faire.
oui.
Je suis très intimidé à
Non,
côté
mais
de Bernard Fournier.
Vous en prie. Mais non, simplement, juste un mot pour situer le contexte de Ives, deux influences. Celle des philosophies transcendantalistes de Emerson et Thoreau, d'une part, et d'autre part, celle de son père, qui était musicien et qui avait été musicien dans l'armée, l'American Union, pendant la guerre de Sécession, et qui avait harmonisé des hymnes et qui les harmonisait de manière dissonante. Et dans ce quatuor, justement, Ives va en fait traiter trois thèmes. Le premier, le plus important, c'est celui de la conversation. Puisque le quatuor au départ est une conversation de salon, une conversation chez Haydn, c'est un petit peu ça. Ça devient la conversation des voix d'une âme chez Beethoven. Et Ives récuse un petit peu tout ça. Il veut donner un coup de pied dans la fourmilière. Il bannit le salon et l'âme pour créer une sorte de dialogue pragmatique dans un quatuor dont les deux premiers mouvements s'appellent respectivement Discussions et Arguments. Alors,
dans l'argument, c'est quatre hommes discutent. Parle de politique, c'est très moderne, oui. Se battent, se serrent la main, se taisent, puis marchent vers les montagnes pour regarder le firmament. Ça, alors, c'est le côté Thoreau. C'est plus une conversation de salon. Goethe, Stendhal disaient que le quatuor à cordes, c'était une discussion entre quatre personnes bien élevées ou de bon goût, de bon ton. Là, ça devient une conversation de saloon, si je peux me permettre.
Oui, bravo.
Non, mais c'est assez extraordinaire parce qu'il y a la volonté de montrer, j'allais dire, une sorte d'angelot, sorte de conversation.
Vous le dites très justement, et le saloon, c'est pas inapproprié, parce que justement, ce qu'il disait, c'est que il faut que ces hommes qui sont assis à faire de la musique fassent autre chose que ça. Et c'est pourquoi pendant le dernier mouvement, les quatre musiciens sont censés gravir une montagne. Donc on n'est plus dans le parler, on est dans le faire. On n'est plus dans la mimésis du parler, mais dans la mimésis du faire. Et disons que c'est quelque chose qui n'aura pas de descendance immédiate, mais qui en aura plus tard avec le quatuor de Stockhausen, Helicopteron, ou avec les quatuors de Murray Schaeffer, où les musiciens sont amenés à faire du tai chi. Alors là, donc voilà.
Je sens que la rédaction de votre dernier volume va être difficile. Hein. Vous fassiez de l'hélicoptère,
c'est déjà fait.
Vous êtes déjà monté en hélicoptère avec Stockhausen. Surtout quand c'est Stockhausen qui pilote, ça fait peur.
Sur le mouvement qu'on va écouter, donc on est bien dans la discussion et dans la confrontation.
Alors, c'est le mouvement que vous avez choisi, c'est le deuxième.
Voilà, c'est ça.
Il s'appelle argument.
Oui, voilà. C'est ça.
On peut traduire par
dispute.
Par dispute.
C'est ça. Et alors la dispute, elle se traduit à la fois par le fait que chaque voix suit son propre chemin et énonce ses propres idées. Alors vous entendrez au cours du mouvement, il y a trois parties, vous entendrez différentes citations qui montrent la nature politique de la conversation. Alors vous aurez des hymnes américains, mais aussi des références au passé. On entendra l'hymne à la joie, la deuxième symphonie de Brahms, la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Et puis il y a aussi une sorte de confrontation entre différentes positions, parce que comme au début, les quatre instrumentistes se disputent sévèrement, le deuxième violon veut jouer les conciliateurs, et alors arrive à ce moment-là un passage que Ives note andante emasculata, et où le violon 2 parodie.
Là, Luc-Marie commence à avoir peur.
Oui, Bernard, arrêtez tout de suite.
Il n'y aura peut-être pas tout de suite le quatuor de Hague. Mais il faut dire que toutes les indications sont assez extravagantes.
Oui.
Bah, c'est toujours une espèce d'anglo-italien.
Oui, c'est ça. Hein,
sont les indications.
Il prend un mot anglais, suite, voilà. Par exemple, il fait un largo suitota ou un largo soblota, d'ailleurs, un largo sanglotant. Donc, il va opposer donc, une espèce de rudesse viril à ce côté romantique décadent qu'il parodie dans la phrase de violon 2 que vous entendrez au bout de 47 ou 48 secondes, je crois, vous remarquerez. Donc le récitatif du violon 2 qui est plein de rubato et de ce que Ives trouve de tout à fait mauvais goût. Et donc à différentes interventions comme ça qui sont l'andante emasculata est brusquement interrompu par un allegro fistato. Donc, et alors là, c'est encore un exemple de cette association, fist, le poignet, et fistato, parce que c'est de l'italien, c'est une espèce d'italianisation de fist pour dire qu'il faut jouer avec beaucoup de brutalité, donc c'est des coups d'archer tirés de manière extrêmement violente. Et donc tout le mouvement se déroule comme ça, et c'est tout à fait étonnant. Alors il a été terminé en 1913, et cet aspect du quatuor, donc le premier mouvement est celui-là. Si je disais que le dernier mouvement avait influencé, elle pouvait peut-être ouvrir une voie vers l'action, une action music du quatuor. Là, c'est plutôt Elliot Carter qui sera complètement influencé par les deux premiers mouvements de ce quatuor, dans son deuxième et troisième quatuor, où les dialogues instrumentaux sont complètement étanches les uns aux autres. Et là, vous verrez comment les voix dissonnent en parlant chacun pour elles.
Et avec quand même, alors c'est peut-être le côté melting pot et le charme d'une certaine Amérique, je ne sais pas encore d'aujourd'hui, mais en tout cas de cette époque-là, et vous le dites très bien, cette discussion, ces arguments, cette bagarre, on peut dire, cette conversation houleuse est moins méchante que sportive. Il y a quand même un jeu. Hein, c'est quand même assez ludique.
Ça ne peut pas être méchant, parce que justement, ce serait contraire aux thèses transcendantalistes de la philosophie du compositeur.
L'idéalisme de Thoreau.
Voilà, c'est un idéalisme un peu naïf, mais qui est sympathique. Mmh.
Très étonnant, deuxième mouvement du deuxième quatuor de Charles Ives, joué là par le quatuor Emerson.